Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anormal. Pour ce numéro, c'est moi, Caroline, qui suis aux commandes. Et je reçois Luc Trouche, directeur de la recherche à l'Institut français d'éducation et directeur adjoint du pôle recherche à l'UNES de Lyon. Cher monsieur, bonjour et merci bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc parler du séminaire international organisé par l'IFE les 1er et 2 décembre, donc ici même à l'Institut, sur le site de l'UNES de Lyon, de l'autre côté du jardin, pour les néophytes. Alors justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet Institut français de l'éducation, qui est tout récent ici à l'UNES, puisque donc il a été créé l'année dernière, en début d'année?
Oui, alors rien n'est jamais vraiment tout récent et on ne crée jamais rien à partir de zéro. Et ainsi, l'Institut français de l'éducation prolonge au sein de l'ENS un très vieil institut qui était l'Institut national de recherche pédagogique dans lequel je suis entré en 2005. Alors l'Institut national de recherche pédagogique a beaucoup de traits forts qu'on va retrouver dans l'IFE et puis des traits faibles qu'on ne retrouve pas, j'espère, dans l'IFE. Les traits faibles, c'est le fait que cet Institut national de recherche pédagogique n'était pas un établissement scientifique, c'est un établissement administratif. Et donc, il avait un rapport un peu particulier avec la recherche en France, la recherche telle qu'elle est, elle s'incarne dans le CNRS ou d'autres grands organismes. C'est une recherche un peu particulière et en cela, l'INRP était le reflet du statut de la recherche en éducation, qui est un statut un peu particulier. La recherche en éducation n'étant souvent pas reconnue comme une recherche de plein droit. Il n'y a pas de section du CNRS, par exemple, qui s'intéresse à la recherche en éducation. Et donc, l'enjeu de la transformation de l'INRP en l'IFE au sein de l'ENS, c'était de donner un autre statut, d'autres moyens, d'autres reconnaissances, d'autres développements pour la recherche en éducation. Alors, il y avait quand même dans l'INRP des points très forts. C'est que l'INRP, c'était un ensemble de chercheurs, mais aussi un environnement très large d'enseignants qui étaient associés aux recherches. Il y avait à peu près 50 chercheurs à l'INRP, et près de 1000 enseignants associés, c'est-à-dire des enseignants qui, pour une partie de leur temps, étaient impliqués dans des équipes de recherche de l'INRP. Impliqués, ce n'est pas au sens de « nous constituons un terrain d'expérimentation comme des souris dans un laboratoire », mais des acteurs, des recherches qui étaient impliqués aussi bien pour la définition des thématiques de recherche, le travail sur les méthodologies, le travail sur le recueil de données, le travail sur l'analyse des données. Hein, donc c'est ça la force de l'INRP, c'était sa force et c'est ce qui demeure aujourd'hui dans l'IFE. Donc l'IFE, pour résumer, c'est un institut dans une grande école, l'École normale supérieure de Lyon, et qui a gardé de l'INRP tout un réseau de collaboration qui permet vraiment aux recherches en éducation de travailler avec un rapport très fort avec le terrain, ce qui est souvent pas le cas dans les pays étrangers.
Et donc, quelle est l'originalité aujourd'hui de l'Institut français de l'éducation? Est-ce que c'est vraiment le statut ou finalement c'est une harmonisation avec ce qui se fait dans les autres domaines de recherche? Est-ce que ça a été un rattrapage ou est-ce qu'il y a une réelle originalité?
Alors déjà, c'est une volonté de donner à la recherche un statut, la recherche en éducation, un statut qu'elle n'avait pas avant. Bon, mais là, c'est je veux dire, un point de vue qui est un point de vue institutionnel, on pourrait dire. Mais c'est beaucoup plus que cela, c'est aussi dans la façon dont on regarde l'éducation. L'INRP, donc Institut National de Recherche Pédagogique, regarde essentiellement l'éducation dans les lieux dédiés à l'éducation, c'est-à-dire les lieux scolaires, et essentiellement la scolarité obligatoire, et essentiellement le collège et le lycée. Et dans le passage du P de pédagogie au E d'éducation, il y a la reconnaissance de processus d'éducation qui sont beaucoup plus larges que ce qui se passe à l'école. Donc il y a un regard sur l'éducation beaucoup plus large, c'est le regard sur ce qui se passe dans les quartiers, dans l'activité quotidienne, un regard aussi beaucoup plus large dans les temporalités, c'est regarder dans les processus éducatifs depuis le nourrisson jusqu'à l'éducation tout au long de la vie. Et c'est le regard aussi du point de vue scientifique, bien au-delà des sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation en France, bon, c'est une section du CNU, la 70e, c'est une tradition forte, mais en même temps, c'est un regard particulier qui, jusqu'à présent, n'a pas tiré tout le parti qu'elle aurait pu tirer des autres domaines scientifiques. Regarder l'éducation, c'est aussi avoir un regard sociologique, un regard anthropologique. C'est convoquer aussi des disciplines comme l'informatique. C'est s'intéresser aux sciences de la communication et de l'information, s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication. C'est aussi, sans doute aujourd'hui, dans un domaine où la communication est complètement bouleversée, s'intéresser à de nouveaux domaines émergents comme l'architecture de l'information qui s'intéresse aux nouvelles façons de communiquer à travers le web. Donc, vous voyez, dans l'IFE, il y a le potentiel de l'INRP comme terrain, comme rassemblement d'acteurs de la recherche qui demeure, et une volonté de regarder l'éducation avec un regard beaucoup plus large, et une volonté sur le plan scientifique de convoquer des disciplines qui toutes peuvent participer à cet approfondissement des recherches. C'est ce qu'on regroupe derrière l'étiquette « science de l'apprendre » qui est au cœur du séminaire international dont la première session est le 1er de décembre prochain.
Et donc, à l'Institut français de l'éducation sont menées donc des activités assez importantes de recherche, comme vous venez de l'expliquer. Sont également mis en place des séminaires dont nous allons parler tout à l'heure. Et quelles sont les autres activités de l'Institut français de l'éducation? Quelles sont les autres expressions de cet IFE?
Alors, regarder les expressions dans les organismes, c'est regarder la structure, déjà ça donne une bonne indication. Dans l'IFE, il y a plusieurs départements. Certains sont la continuation des pôles de l'école normale supérieure que les élèves de l'école normale connaissent bien. Il y a un département recherche qui est intégré dans le pôle recherche de l'ENS. C'est le département que je connais le mieux puisque j'en suis le directeur et qui conçoit son activité comme celle d'une plateforme de recherche en éducation. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont internes à l'IFE ou à l'ENS. Et puis des équipes avec lesquelles on collabore, qui peuvent se trouver à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Rennes, et qui partagent des outils, qui partagent des méthodologies, et qui questionnent ensemble les dispositifs de recherche qu'ils ont mis en place. Donc là, c'est le département recherche. Et ensuite, un département formation initiale, qui essaie de développer des formations nouvelles et qui sont nécessaires. Il y a par exemple un master d'architecture de l'information qui est développé dans ce département, en commun ENS et Université de Montréal. Il y a aussi en germe un master sur les politiques éducatives. Enfin bref, on essaie de s'appuyer sur les recherches qu'on développe pour mettre en place des formations qui n'existent pas et qui répondent à des besoins du système éducatif. Et ensuite, un département médiation des savoirs, qui est le prolongement, enfin qui est inclus dans le département diffusion des savoirs de l'ENS. C'est un département qui pilote un ensemble de sites éducatifs qui sont liés aussi au ministère de l'Éducation nationale. Et la vocation de ce département, c'est d'établir un pont entre ce qui est le plus avancé dans les laboratoires de recherche scientifique et ce qui est pratiqué dans les salles de classe. Donc essayer de tenir les professeurs de l'enseignement secondaire, primaire aussi, de les mettre, de les brancher sur la recherche en marche. Il y a aussi un département qu'on appelle Agence Qualité Éducation, qui n'a pas son parallèle dans l'ENS, et où il s'agit de penser des formations, de penser, d'essayer d'extraire des critères de ce qui est nécessaire pour la qualité de l'enseignement. Et là, ce département essaie de réaliser un pont, une interface entre la formation telle qu'on la délivre à l'ENS et à l'IFE et les besoins de la formation de la société qui sont beaucoup plus vastes. Il y a par exemple une formation qui est organisée au bénéfice des cadres d'EDF l'été prochain, je crois. Voilà, donc un rapide panorama de l'IFE, de ses départements et donc de ses activités.
Bien, merci pour cette présentation. Alors parlons maintenant de l'actualité de l'IFE, puisque donc l'Institut tient son séminaire international les 1er et 2 décembre 2011, donc sur le thème « Éducation et sciences de l'apprendre ». Alors pouvez-vous nous préciser un petit peu cet intitulé et le sujet donc de ce séminaire?
Bon, alors je vous disais que dans la création de l'IFE, il y avait la volonté de regarder un peu plus largement que les sciences de l'éducation, qui sont des sciences avec un périmètre déjà bien construit, comme l'histoire, et de convoquer pour étudier l'éducation un ensemble d'autres disciplines. Donc il fallait trouver un intitulé, parce que toutes les disciplines ont évidemment à voir avec, ou pourraient avoir avec ce qu'est apprendre, puisqu'apprendre c'est finalement à l'origine du développement social. Donc il fallait définir un périmètre et définir une intention. Alors on a beaucoup discuté, science de l'apprendre, ça nous semblait une appellation, une dénomination forte, parce que bon, il y a le mot science, c'est bien un domaine scientifique qu'on veut construire. Il y a le mot apprendre sur lequel on peut jouer, parce que apprendre peut se comprendre dans les deux sens. On apprend quand on apprend de quelqu'un et aussi on apprend à quelqu'un. Donc il y avait ce double sens sur lequel on veut jouer, tant est crucial, il nous semble, aujourd'hui, cette relation, cette articulation entre j'apprends et je t'apprends. Et puis, science de l'apprendre, le mot apprendre, c'est aussi un acte, c'est pas l'apprentissage, un nom, et il y a bien un acte, un processus, et c'est à travers ce processus que les choses se passent. Hein. On pense, comme le dit Gérard Vergniaud, qui est un psychologue de l'apprentissage, qui est certainement important, que la résolution de problèmes, c'est à la fois l'origine et la source et le critère de la connaissance. Donc on apprend toujours dans l'action. Donc science de l'apprendre, c'était aussi important pour ça. Et enfin, science de l'apprendre, pourquoi ? Parce que ça fait écho aux communautés qui sont largement installées dans les pays anglo-saxons, les learning sciences, et qui correspondent aussi à cette volonté d'analyser l'acte d'apprendre dans un contexte interdisciplinaire assez, assez large.
Donc, tout à l'heure, vous avez dit que science de l'apprendre était un peu plus large que science de l'éducation. Est-ce que pour vous, l'enjeu aujourd'hui, et l'enjeu autour de ce séminaire, est justement d'arriver à élargir les sciences de l'éducation et donc de travailler ce lien entre, comme vous le dites, l'apprendre et l'enseigner, entre je t'apprends et j'apprends. Est-ce que c'est là que se situe aujourd'hui l'enjeu de ce domaine de recherche ?
Oui. Tout à fait. Là, et sa construction, elle va dépendre de ce qui se passe dans ce séminaire et dans d'autres dispositifs qu'on met en place. Et tout développement, c'est aussi se joue à deux. Il y a ceux qui développent et ceux qui regardent le développement. Et il y a un enjeu très fort. Il nous semble que les grands organismes de recherche en France, comme le CNRS, reconnaissent dans ce développement quelque chose qui doit être encouragé. Avec des groupes de recherche du CNRS, Sciences de l'apprendre, ou d'autres structures qui fassent rentrer les recherches en éducation comme des recherches de plein droit.
Donc, ce séminaire est aussi l'occasion de marquer le centenaire du nouveau dictionnaire de pédagogie, donc de Ferdinand Buisson. Conçu comme une encyclopédie, ce dictionnaire visait à offrir donc aux instituteurs des notions et des indications théoriques sur les finalités de l'école. Vous me corrigerez si je me trompe ou si je suis trop approximative. Quelle est la place donc de ce nouveau dictionnaire aujourd'hui dans le champ de la pédagogie 100 ans après ? Par exemple, pourquoi avoir édité une version électronique ? Est-ce que ça marque le début de la pédagogie en France ? Est-ce que c'est un point de départ auquel vous aimez vous référer ? Quelle est la place de ce centenaire et quel est le sens de ce centenaire ? Pourquoi le marquer aujourd'hui ?
Bon, c'est toujours l'occasion qui fait le larron. Et 1911, c'est l'édition du nouveau dictionnaire pédagogique. Donc, c'était l'occasion, en faisant notre séminaire ici, de se rattacher à un siècle de tradition, d'autant qu'il n'y avait pas eu d'autres occasions, enfin, il n'y a pas eu d'autres manifestations pour fêter ce centenaire. Et le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, c'est certainement un grand moment dans l'histoire de l'enseignement et de la réflexion sur l'enseignement. Le premier dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson est contemporain de Jules Ferry, de la scolarité obligatoire, et le nouveau dictionnaire de pédagogie, plus d'un quart de siècle après, en 1911, revient interroger ces notions d'enseignement et de responsabilité des éducateurs et de responsabilité d'un État pour l'éducation. 1911, c'est aussi intéressant parce que bon, c'est le début des grandes associations, des mouvements d'instituteurs. 1902, c'est une grande réforme de l'éducation en France avec des programmes qui balancent pour la première fois l'intérêt des humanités, l'intérêt de la culture scientifique. Donc il y a là tout un tourbillon dont on trouve les traces dans ce nouveau dictionnaire de pédagogie. Avec des choses qui sont très actuelles, par exemple, on trouve à l'article Conseil des maîtres du nouveau dictionnaire pédagogique cette phrase forte qui dit « Tout enseignement est une collaboration ». par exemple, et qui attire le regard sur la nécessité de la collaboration des maîtres pour développer leur capacité à enseigner et à comprendre les processus d'apprentissage. Il y a aussi d'autres éléments qui sont tout à fait passionnants dans ce nouveau dictionnaire pédagogique. C'est, par exemple, toutes les discussions qu'il y a au début du siècle sur quels sont les outils de l'apprentissage. Et il y a beaucoup de rubriques, par exemple, je connais plus davantage comme chercheur sur l'enseignement des mathématiques, les rubriques qui concernent les mathématiques. Donc dans la rubrique Boulier, par exemple, il y a une discussion sur quel est le rôle des outils dans l'enseignement des mathématiques. Mais vous remplacez Boulier par calculatrice, vous retrouvez des discussions qui sont très, très récentes. Donc il y a là une sorte de matrice dans ce dictionnaire des discussions qu'on peut avoir aujourd'hui. Et des aspects passionnants de ce dictionnaire, c'est qu'on retrouve les traces de cette discussion agitée, de la discussion sociale agitée, dans les pages même de ce dictionnaire. Dans la rubrique Boulier, on trouve à la fois des avis qui disent que on doit absolument. Une phrase disant par exemple « La nature a donné aux enfants un premier boulier avec leurs 10 doigts. Il faut, au lieu de leur donner un deuxième boulier, il faut leur apprendre à se passer du premier. » C'est-à-dire qu'il faut arriver à tout faire de tête. Et puis d'autres, dans le même article, un autre point de vue qui consiste à montrer, enfin, qui montre bien tout l'intérêt qu'on peut avoir à combiner différents outils pour développer une compréhension profonde de ce que sont les nombres et les processus, les algorithmes, etc. Donc pour ça, il y a vraiment des choses très très modernes dans ce dictionnaire.
D'accord. Et en même temps, en 100 ans, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des learning sciences, le champ s'est approfondi. On a notamment l'Institut français de l'éducation en 2010, donc une institutionnalisation en France un peu plus forte, une reconnaissance un peu plus forte des sciences de l'apprendre. Mais je voudrais maintenant parler donc précisément des learning sciences. Donc c'est plutôt dans le domaine des études anglo-saxonnes qu'on nomme, enfin c'est de cette façon qu'on nomme chez les anglo-saxons les sciences de l'apprendre. Qu'est-ce que les anglo-saxons ont apporté à la recherche française? Est-ce qu'on peut parler par exemple d'un retard français, ou alors est-ce que c'est faux et est-ce que cette référence se fait simplement parce que c'est ce qu'on fait aux États-Unis, mais c'est pas forcément en termes de retard ou d'avance qu'il faut penser les choses?
Bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de retard ou d'avance. Je dirais, ou alors, peut-être dans l'organisation du domaine. Hein, je pense certainement dans les communautés anglo-saxonnes, il y a eu ce travail interdisciplinaire. Il y a aujourd'hui un travail interdisciplinaire beaucoup plus avancé qu'en France. Il n'y a pas eu une cristallisation des recherches au sein d'une communauté comme les sciences de l'éducation, mais d'emblée, des recherches beaucoup plus interdisciplinaires. En France, on trouve aussi ce cadre interdisciplinaire qui s'est développé autour des nouveaux environnements, des environnements numériques, avec des communautés comme celle des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, où il y a ce regard qui croise des chercheurs en psychologie, des chercheurs en ergonomie, en sociologie, en informatique et en didactique des disciplines. Donc là, à travers ce séminaire qui s'appuie fortement sur des apports internationaux, l'enjeu est d'arriver en France à cette même culture de l'interdisciplinarité pour mieux comprendre l'acte d'apprendre.
Et en termes de contenu, est-ce qu'il y a une réelle différence, ou alors est-ce qu'il s'agit plutôt d'établir des ponts entre les deux pour des recherches qui sont à peu près dans les mêmes domaines?
Non, pour moi, les contenus, mais d'ailleurs on le voit bien à une série d'occasions pour les projets de recherche européens, par exemple, qui croisent ces différentes communautés. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'avance. C'est plus un jeu qui est conçu davantage interdisciplinaire à l'étranger qu'en France.
D'accord. Alors donc, le séminaire est construit sur trois thématiques. La première, questionner les sciences de l'apprendre. La seconde, recherche politique et pratique. Et la dernière, méthodologie de recherche en éducation. J'aimerais revenir plus particulièrement avec vous sur la deuxième thématique, recherche politique et pratique. Quelles sont pour vous les relations entre les politiques éducatives et la recherche en éducation? Quels peuvent être les ponts entre donc ces deux pôles autour de l'éducation et de l'apprendre?
Alors, je vais revenir un peu en arrière sur ce qui a motivé notre choix de cette thématique. Dans les années 90, s'est développé un important mouvement de promotion sur le fondement scientifique, non pas d'éducation, mais des pratiques médicales. et s'est développé un mouvement qu'on appelait l'Evidence-Based Medicine, qui s'est étendu aux autres pays occidentaux. Et dans le fil de ce mouvement, s'est développé assez naturellement une réflexion identique autour de l'Evidence-Based Education. C'est-à-dire, est-ce que la recherche est capable de dire ce qu'il faut pour organiser l'éducation. Alors c'est cette discussion qui est toujours très active, qui se développe et qu'on voudrait questionner à travers cette thématique. Autrement dit, est-ce que la recherche peut avoir une incidence forte sur les politiques d'éducation, ou est-ce que les politiques d'éducation peuvent avoir une demande forte sur dans quelle direction on devrait développer la recherche? Comment concilier en fait la nécessaire autonomie de la recherche, parce que la recherche est par essence non prédictible, hein, on recherche, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, et donc comment concilier cette nécessaire autonomie et les nécessités éducatives, parce qu'un système éducatif a des obligations, une politique doit pouvoir se développer dans le court, moyen et le long terme. Donc c'est ce qu'on veut travailler dans cette thématique, avec, je dirais peut-être pour répondre à votre question, d'une phrase, l'idée sans doute que c'est moins une evidence-based policy que l'on va viser, mais plus quelque chose qu'on pourrait appeler informed-based policy, c'est-à-dire de quelle façon la recherche peut informer les politiques éducatives sans avoir la prétention pour autant de dire exactement ce qu'il faut faire pour organiser au mieux l'éducation. Alors, pour poursuivre dans la réponse à votre question, on pourrait partir de comment les choses sont organisées aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a en France un intérêt plus important qu'avant, il me semble, pour du ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour les produits de la recherche. Le ministre de l'Éducation nationale a ainsi constitué depuis 2 ans un département spécifique qui s'appelle la DRDIE, département recherche, développement, innovation, expérimentation, qui est placé directement sous l'autorité de la direction des enseignements scolaires et qui a pour volonté de s'intéresser de très près à ce que dit la recherche en éducation. Donc ça témoigne un intérêt nouveau. Et je crois aussi que il y a sans doute la conscience que si on veut que la recherche puisse donner des réponses utilisables par les politiques, il faut donner certainement d'autres moyens à la recherche en éducation que les moyens qu'elle a jusqu'à présent. Aujourd'hui, la recherche en éducation en France dispose de moyens, je dirais de petits moyens, qui fait qu'elle peut développer des recherches qualitatives de grande qualité, c'est-à-dire regarder sur des petits effectifs, sur des petites durées, ce que donne telle ou telle méthode, essayer d'identifier des blocages, des difficultés, essayer d'analyser les effets des curriculums. Mais on sait bien maintenant que pour avoir des résultats fiables, il faut combiner recherche quantitative et recherche qualitative, et pour cela avoir des moyens importants qui permettent de suivre sur le temps des cohortes assez, assez grandes d'apprenants, d'élèves.
D'accord. Et à l'inverse, enfin, ou en tout cas dans un deuxième axe, quels pourraient être les liens justement entre la recherche en sciences de l'apprendre et les pratiques éducatives? Par exemple, dans votre séminaire, vous allez vous arrêter un moment sur les nouveaux médias, les nouveaux moyens de communication. Qu'est-ce que la recherche peut dire sur les pratiques éducatives et comment est-ce qu'on peut le communiquer aux enseignants?
Alors là, c'est la question que vous posez est tout à fait importante et elle est travaillée par l'INRP, par l'UIFE depuis longtemps. Ce qui nous semble, c'est que les rapports ne peuvent pas être haut vers le bas, les chercheurs disant aux enseignants quels sont les résultats de la recherche et donc comment ils doivent enseigner. Mais qu'au contraire, il y a une sorte d'action conjointe ou de coproduction des résultats de la recherche par les chercheurs et par les enseignants qui sont impliqués dans cette recherche. Et que c'est dans la mesure où il y a vraiment cette relation très serrée en amont, pendant et en aval de la recherche, que les résultats peuvent être raisonnablement communiqués. Alors, Il y a la semaine dernière, il y a eu la première rencontre nationale à l'IFE de ce qu'on appelle les lieux d'éducation associée. Ce sont des lieux, alors ça peut être des collèges, des lycées, des réseaux de collèges et des centres sociaux qui naissent, vont des lieux dédiés à apprendre avec un objectif d'apprentissage et qui naissent de la rencontre entre une question de recherche, la mobilisation des acteurs de ce lieu et une équipe de chercheurs. Et l'objectif est ainsi, sur un lieu bien déterminé, de regarder en prenant en charge, en prenant en compte un ensemble d'interactions, des questions, des réponses possibles, et de les travailler sur une durée assez large. Par exemple, un de ces lieux, on a, pour ce premier cercle de lieux d'éducation associée, ce qu'on appelle les LEA, il y a une quinzaine d'établissements, une quinzaine de lieux, dont une école de Marseille, l'école Saint-Charles. L'objectif est de regarder, de regarder les effets de certains types d'apprentissage des mathématiques, du cours préparatoire au CM2 et ensuite au collège. Et ce travail repose sur la mobilisation des acteurs, c'est-à-dire que tous les enseignants de l'école sont mobilisés sur ce projet de renouvellement de l'enseignement des mathématiques, la direction de l'école, l'inspection académique et une équipe de recherche. Et donc il y a un travail qui dure déjà depuis 3 ans, je crois qu'on en est là au CE2, qui va se prolonger en CM1, CM2. Et on a là à la fois une recherche qui n'est pas tout à fait en vase clos, c'est pas dans une classe, dans un ensemble des classes, pas sur un moment, mais sur le long terme. Et en même temps, la façon dont cette recherche est travaillée par des chercheurs et par des enseignants fait que les résultats, la façon dont les ressources sont conçues, on peut penser que ça sera plus facilement transmissible, c'est des résultats qui pourront être plus facilement appropriés par d'autres écoles et en général par les enseignants. Donc c'est un des éléments importants des recherches qui sont menées à l'IFE, cette idée on parle de recherche impliquée ou de recherche contextualisée, la façon d'impliquer les acteurs de l'enseignement à tous les niveaux de la recherche. Ensuite, bon, je peux vous dire, la question que vous posez est tellement complexe qu'on pourrait la traiter à beaucoup d'autres endroits. C'est vrai que entre la recherche et l'enseignement, il y a tout l'espace de la formation. Une autre enquête à nouveau, un autre travail à nouveau à propos des mathématiques qui a commencé la semaine dernière. Le ministère a demandé à l'IFE de regarder au niveau international les questions qui étaient posées par l'enseignement des mathématiques, les réponses qui étaient apportées et une base possible de consensus. Est-ce qu'à travers toutes les expériences menées et toutes les études, on peut penser qu'il y a certains points qui sont désormais incontestables? Alors là, c'est un travail qui va être mené jusqu'au mois de mars par un comité qui regroupe des enseignants, des formateurs, des chercheurs, des inspecteurs. Donc, on est là dans le niveau, au sommet par rapport à ce que je disais tout à l'heure de travaux qui partaient d'une école. Et puis, il y a une conférence de restitution de ces travaux qui aura lieu le 13 mars à Lyon, dans le grand amphithéâtre de l'ENS. Et cette conférence sera essentiellement ouverte aux formateurs au niveau national, au niveau local, avec cette idée que c'est aussi une autre façon de faire passer des résultats de la recherche en les faisant digérer et communiquer aux enseignants par tous les dispositifs de formation qui sont des dispositifs de formation initiale ou de formation continue.
Et alors, justement, par rapport à la formation, beaucoup de nos auditeurs se préparent donc à enseigner. Est-ce que vous pensez que la formation pédagogique, ou en tout cas la sensibilisation au sens de l'apprendre, ait aujourd'hui toute sa place dans les concours d'enseignement et les formations justement à l'enseignement?
Là, c'est pas moi qui le dis, mais le ministère a mis en place une commission qui est présidée par Jean-Michel Jolion, qui est un Lyonnais, et qui a remis en octobre 2011, donc c'est tout récemment, un rapport à Laurent Wauquiez. Ce rapport est intitulé Mastérisation de la formation initiale des enseignants, enjeux et bilan. Et bon, je vais pas vous lire évidemment tout le rapport, mais uniquement quelques phrases, hein, où il dit par exemple. Dès le départ, au-delà des difficultés qualité inhérente à toute réforme et à sa phase de construction, cette réforme porte en elle des écueils qui ne pourront être levés par de simples ajustements. Et tout dans cette réforme, il dit à un autre moment que cette réforme a sans doute été guidée par des contingences budgétaires, alors qu'il aurait été indispensable de penser ces réformes au profit du bien commun qui est la formation des jeunes. Donc il y a dans ces réformes la place du concours de recrutement qui est au milieu de l'année, enfin en novembre, le fait que les étudiants doivent à la fois préparer l'oral de ce concours pour ceux qui ont été admis, de préparer le Master 2, un mémoire de recherche. Enfin, je suis moi-même intervenu en Master 2 et suivi les mémoires de candidats au concours. Bon, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites de façon conjointe, donc en général c'est le mémoire qui est sacrifié, alors que c'est un moyen vraiment de poser des questions et de penser ses propres réponses, c'est un moment essentiel, le mémoire est sacrifié. La formation pédagogique qui a lieu avant le concours est très très réduite, souvent sous forme d'observation simple, et le candidat, enfin le nouveau professeur, se retrouve directement confronté à la nécessité de s'approprier un nouveau métier dans sa première année d'exercice, à se former lui-même, à découvrir ses classes. Bon. C'est des choses, c'est vraiment pas une façon raisonnable de penser la formation, et très sincèrement, je ne connais personne qui soutienne aujourd'hui que la formation est que la dernière réforme de la formation va dans le bon sens. Elle a augmenté les difficultés de recrutement, ce qui fait que le nombre de candidats au concours a chuté de façon dramatique, et sans doute, à de rares exceptions près, je suppose, mais les conditions d'intégration dans le métier sont des conditions fortement dégradées.
Et sans aller jusqu'à l'utopie, comment est-ce que, enfin, quelles seraient les mesures qui permettraient de faire un peu mieux, ou en tout cas d'améliorer la formation significativement et rapidement, par exemple?
Il y a des solutions élémentaires qui sont acceptées à peu près partout, c'est-à-dire que le CAPES, enfin, le concours de recrutement, soit à la fin du M1, telle façon que le M2 puisse être consacré à une étude conjointe, bon, disciplinaire bien sûr, mais aussi didactique et pédagogique, hein, qu'une fois que le concours la question du concours est réglée, il puisse avoir une très sérieuse formation, et tout le monde sait qu'elle doit articuler les questions disciplinaires et les questions pédagogiques. Mmh. Et on sait aussi que le mémoire sert un moment de réflexivité pour celui qui va être le nouvel enseignant. Un mémoire professionnel, c'est quelque chose d'important. Développer dès cette année des formes de travail collaboratif entre les enseignants qui leur permettent de travailler ensemble et avec les nouveaux moyens donnés par Internet, concevoir de façon collaborative des ressources, développer des plateformes qui leur permettent de déposer des versions et d'intégrer dans des versions successives leur expérience, les problèmes qu'ils ont rencontrés. Tout ça est certainement nécessaire. Alors, il y a des choses qui ont été développées, qui sont, même dans cette situation très mauvaise, l'IFE a développé une plateforme qui s'appelle Neopass Action, qui est une plateforme d'aide aux nouveaux enseignants. Donc, une plateforme d'aide à l'intégration dans un nouveau métier. Et ce travail, qui a été développé par une équipe conduite par Lucria à l'IFE, se présente sous la forme de la mise en évidence de moments critiques dans le travail du professeur. Par exemple, l'entrée dans la classe. L'entrée dans la classe, le moment où il faut passer d'une agitation à une concentration sur un objectif commun, une tâche commune, un objectif d'apprentissage. Et alors, la plateforme Neopass montre de courts extraits de vidéos où on voit comment les choses se déroulent mal ou mieux. Et ensuite, la personne directement concernée, c'est le professeur qui a organisé cette entrée dans la classe, analyse ce qui s'est passé, ses difficultés. Ce travail aussi, la même vidéo est analysée par un professeur expert. Et enfin, toujours la même vidéo est analysée par un chercheur. Donc ça donne une façon, ça ne peut pas remplacer une vraie formation avec des échanges sur place, mais ça donne un certain nombre d'éléments de réflexion aux nouveaux enseignants, leur montrant que les moments qu'ils identifient comme difficiles ne sont pas liés à leur incompétence propre, mais que sont des moments intrinsèquement difficiles, et leur montre aussi à travers ces petits épisodes, ces quelques minutes, illustrant ces différents moments critiques, leur montre que les difficultés qu'ils rencontrent sont les difficultés rencontrées aussi par d'autres nouveaux enseignants, et qu'il y a un certain nombre de façons, un certain nombre de ressources personnelles ou collectives à développer pour essayer de passer ces difficultés et les transformer en ressorts d'un développement professionnel. Et ces ressources, celles qui sont données par les enseignants chevronnés ou les chercheurs. Donc voilà, il y a quelques éléments qui sont mis en place pour appuyer, accompagner l'entrée dans le métier de ces nouveaux enseignants.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, donc, monsieur Luc Trouche, de nous avoir d'abord fait découvrir ce qu'est l'IFE à l'ENS de Lyon et de nous avoir ensuite parlé de ce séminaire donc, qui est organisé les 1er et 2 décembre 2011 sur le thème éducation et sciences de l'apprendre. Je suis sûre que tous nos auditeurs qui se préparent donc à être enseignants en savent maintenant un peu plus sur les sciences de l'apprendre. Merci beaucoup.
Alors, si je peux rajouter une phrase, quand
oui,
même,
oui, oui.
C'est pour suggérer aux étudiants, pour renforcer votre appel, ce séminaire est prévu, c'est pas seulement une session, mais il y aura 3 sessions par an, et il est largement ouvert aux doctorants, parce qu'il s'est donné comme objectif d'être non seulement un lieu où les chercheurs échangent entre eux, mais un lieu de passage de témoins, un lieu de construction d'un passage de témoins de la recherche en éducation. Le passage de témoins dans la recherche, c'est souvent difficile, mais dans la recherche en éducation, peut-être encore davantage. Donc, la porte est grande ouverte pour les doctorants ou les étudiants de l'ENS.
D'accord, et bien merci beaucoup. Et donc, on mettra un lien en dessous du player de l'émission pour ceux qui sont déjà intéressés.